Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast An Eye On You. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps, mais je voulais pas le faire seule, qui est le syndrome de l'imposteur. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Emilia Pesti. Elle va se présenter et en tout cas, je suis trop contente de la recevoir aujourd'hui. J'espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute!
Hello tout le monde, alors du coup je m'appelle Emilia, je suis artiste designer en freelance, j'ai 24 ans et je suis très contente d'être sur ce podcast aujourd'hui.
Du coup aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur, et le syndrome de l'imposteur, si vous savez pas ce que c'est un phénomène en fait un peu psychologique chez les gens qui fait que malgré nos parcours, ce qu'on fait dans la vie, les étapes qu'on a pu traverser ou les qualifications qu'on a, et ben on va remettre toujours en question notre légitimité à faire quelque chose, donc que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel. Et du coup, on va se sentir comme un imposteur face à certaines situations. On va minimiser en fait ce qu'on a dans la vie, le succès qu'on peut avoir, la réussite qu'on a, et on va toujours se remettre en question sur ça. Et du coup, aujourd'hui, on va en parler. Emilia, toi, du coup, tu es indépendante, tu es en freelance. Est-ce que tu peux définir le syndrome de l'imposteur pour toi aujourd'hui ?
Alors, selon moi, déjà, comme tu l'as dit, c'est un syndrome qui est psychologique où, en fait, on dénigre notre propre succès. Et moi, je le vis plutôt au quotidien. Je l'ai d'abord vécu pendant mes études, quand j'étais étudiante en design en création numérique et aussi en design en graphisme. Je l'ai beaucoup vécu parce que j'avais cette impression de pas mériter ma place en tant qu'étudiante et aussi d'être peut-être moins bonne que mes camarades. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai ancré petit à petit au cours de mes études. Et maintenant, depuis que je me suis lancée, j'ai beaucoup ce truc de... En fait, j'ai l'impression d'avoir du mal à justifier mes prix parce que j'ai l'impression de pas valoir ce prix, si ça c'est clair. Et aussi, j'ai beaucoup de mal aussi à démarcher des clients parce que je me dis peut-être que je vais pas réussir à remplir telle ou telle mission. Et donc voilà comment je le définis pour moi.
Tu l'as dit, tu es freelance en design. Il faut savoir aller voir le compte Instagram. Je le répéterai aussi à la fin du podcast, mais c'est super beau ce que tu fais. Moi, je lui ai acheté une affiche, elle est trop belle. Et tu as fait une vidéo YouTube, du coup, parce que tu es sur les réseaux aussi, une vidéo YouTube sur ce syndrome. Au quotidien, du coup, là, en tant que freelance, tu le ressens énormément. Du coup, comment ça se passe pour toi quand tu ressens ce syndrome de l'imposteur ?
Alors, comment ça se passe ? En fait, j'ai souvent plusieurs états d'âme, on va dire. Déjà, j'ai le moment où je me dis « Ok, je ne vaux pas ce que les gens pensent que je vaux ». Et du coup, soit je vais directement en parler avec mes proches, et donc là, je vais avoir un peu de soutien moral, et c'est ça aussi qui m'aide à avancer. Ou alors, je vais essayer un petit peu de prendre du recul, et justement, c'est ce que je disais dans ma vidéo YouTube, c'est qu'en fait, j'essaye de, on va dire, de partitionner mon syndrome de l'imposteur, de comprendre d'où ça vient, pourquoi je me sens comme ça. Et aussi de me rendre compte que comme ça touche beaucoup de monde, je ne suis pas seule. Et du coup, souvent, je vais regarder un petit peu sur Internet comment se défaire du syndrome de l'imposteur. Et moi, du coup, il y a une technique qui marche beaucoup pour moi, c'est vraiment de prendre du recul en me disant si ce n'était pas mon travail et que c'était le travail de quelqu'un d'autre, je sais que je trouverais ça trop cool. Et comme c'est moi qui fais ce travail, en fait, je ne trouve pas ça trop cool. Et donc, du coup, c'est vraiment ce truc de me détacher complètement de moi-même et de me dire bah voilà, je sais que je trouverais ça cool d'une autre personne, donc pourquoi je suis aussi dure avec moi-même? Donc voilà comment je fais.
C'est super intéressant, et puis aussi, je trouve que c'est une question de confiance en soi. Et comme je te disais avant qu'on enregistre, je pense qu'on a, entre guillemets, un peu la même situation d'être indépendante. Et du coup, il y a des fois, par exemple, en journalisme, où je vais pas proposer certains sujets, parce que je vais me dire pourquoi ça plairait, parce que c'est moi qui le propose, alors que c'est vrai, comme tu dis, se détacher, c'est une bonne solution, parce que si je le faisais, enfin, si je voyais quelqu'un faire ça, et bah, je trouverais ça trop cool, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est lié à ta confiance en toi? Et justement, quand tes proches te donnent du soutien, etc., ça te redonne ce boost-là de confiance en toi et au quotidien? Est-ce que ça se manifeste que dans ton travail? Ou justement, est-ce que ça se manifeste aussi personnellement?
Alors déjà, je pense que personnellement, ça peut se manifester dans certains cas, surtout par rapport aux réseaux sociaux, parce que tu disais justement que je fais de la création de contenu. Donc je travaille pour une agence, enfin je suis représentée par une agence, donc ça s'appelle Folker Studio, et du coup... Je travaille en tant que créatrice de contenu. Et c'est vrai que des fois, par exemple, quand il y a des marques qui vont me target, elles vont m'envoyer un mail, des grosses marques, souvent je me sens pas légitime et je me dis pourquoi ils viennent me chercher moi. Et il y a plein d'autres talents dans mon agence. Et je me dis pourquoi ils vont pas chercher quelqu'un qui a plus d'abonnés, qui a une personnalité plus, je sais pas, plus ouverte, plus créative. Et du coup, ça se manifeste pas mal. Donc, c'est aussi lié à mon travail, mais c'est quand même ma personnalité de ce que je renvoie sur les réseaux sociaux. Et aussi, j'ai beaucoup ce truc. Des fois, quand il y a des gens qui... Ça m'arrive de me faire reconnaître, donc surtout chez Brandy, quand je travaille. Il y a beaucoup de filles qui me disent « Ah, salut, je te suis sur Insta, sur TikTok, j'adore ce que tu fais. » Et j'ai toujours ce truc de me dire « En fait, les gens ne me connaissent pas réellement. » Et peut-être que ce que je partage sur les réseaux sociaux, ça plaît à des gens, mais je me dis, ça se trouve, les gens, s'ils me rencontraient, ils ne m'aimeraient pas du tout, tu vois. Enfin, du coup, j'ai beaucoup ce truc-là de personnel où je me dis, bah, en fait, peut-être que finalement, en fait, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas les gens qui vont m'envoyer des messages en mode « j'adore ce que tu fais », bah, je me dis peut-être que non. Donc ça se manifeste et dans mon travail et dans ma personnalité, je pense.
Du coup, ça se lie vachement à la confiance en soi, à l'estime de soi, etc. Du coup, est-ce que ça va venir affecter un peu ta santé mentale au quotidien ou ton bien-être émotionnel, etc.?
Moi, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup affecté pendant mes études, justement, où en fait, j'ai eu des grosses périodes de blocage où j'arrivais pas à produire, c'était un peu la page blanche, où je me disais en fait... Bah, quoi que je fasse, je suis peut-être pas assez bien. Par exemple, j'avais des notes qui sont moyennes, j'avais un 13 et je me disais, bah ok, dans ma classe, tout le monde a eu un 16, tout le monde a eu un 18. Je suis pas assez bonne, donc peut-être que j'ai même pas envie de rendre mon projet. Enfin, j'avais beaucoup ce truc-là où en fait, je me mettais moi-même des barrières. Et c'est un des principes du syndrome de l'imposteur, c'est de l'auto-sabotage. Et c'est vrai que je m'auto-sabotais beaucoup pendant mes études et maintenant... Maintenant, j'ai moins ça, mais c'est vrai que bah, du coup, ça m'empêchait de faire plein de choses. Je m'empêchais moi-même de faire des trucs, de faire des projets. Et aussi, bah, ça affectait beaucoup ma santé mentale. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de gros problèmes de santé mentale, mais le syndrome de l'imposteur, ça a été un gros frein pour moi, et dans ma scolarité et dans ma vie, parce que ça m'empêchait vraiment de, même des fois, de sortir de mon lit, parce que je me disais, en fait, ce que je fais, c'est nul, et ça vaut pas la peine d'aller en cours, ça vaut pas la peine de prendre les transports pour faire... tel truc, tel projet.
Je t'avoue que pendant mes études, je le ressentais un peu dans le fait de demander des stages, vu que comme je suis spécialisée en télévision, je me disais, bah, c'est impossible que je sois prise dans ce stage et tout. Et à partir du moment où j'ai été prise, du coup, j'avais été prise à TF1, je m'étais dit, bah, en fait, si mon travail, ça vaut la peine de me donner à fond et tout. Et en fait, la confiance en moi dans mon travail est venue un peu petit à petit dans les études quand j'ai vu que je pouvais aller dans ces stages et tout. Et après, là, c'est surtout dans le marché du travail, mais après... Bah, le journalisme, c'est un peu, je pense, comme dans l'art et tout, dans le design, c'est dur de se faire sa place, de se faire un nom, on va dire. Donc en vrai, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai des gros coups de blues comme toi, comme tu dis, des gros coups de déprime où je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse ça parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs, etc. Et puis après, bah, j'essaye de prendre du recul et de... Je sais que par exemple, Marie-MT, je sais pas si tu vois qui c'est une youtubeuse et tout. L'autre fois, on a tourné une vidéo YouTube en fait de mon appartement pour le lier au métier de journalisme. Et du coup, après, on parlait toutes les deux et elle me disait, mais c'est ouf que t'aies fait tout ça à 22 ans. Et du coup, je me disais, mais d'un regard extérieur, ça paraît ouf, alors que des fois, je me dis, j'ai 22 ans et j'ai pas fait encore tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand tu parles avec les gens, ça te met toujours ça. Et je pense que c'est aussi un peu, j'en parle souvent dans ce podcast, mais... les réseaux sociaux, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais on se compare vachement parce qu'il y a beaucoup de très jeunes qui, par exemple, vont acheter leur appartement, vont avoir énormément de capital économique et tout. Et du coup, nous, on se dit, mais on n'a pas ça. Mais c'est vrai qu'après, les réseaux, c'est vraiment un petit pourcent de la population. Et du coup, bah, comme on le voit tout le temps, c'est un peu ce problème. Je sais pas si tu le ressens aussi.
Bah, moi, je le ressens complètement parce que moi, du coup, j'ai 24 ans. Et en fait, j'en rigole souvent avec mes potes en disant que j'ai bientôt 30 ans, mais en fait, dans l'idée, j'ai 24 ans et je vis encore chez mes parents parce que mon activité ne me permet même pas de vivre toute seule, ou du moins même avec mon copain, j'ai pas assez de fonds. Et du coup, là, en fait, je cumule un job qui était à la base étudiant, donc chez Brandy. Et au final, maintenant, c'est mon job alimentaire qui me permet d'avoir une stabilité. Et en fait, des fois, je me dis vraiment, ouais, il y a des filles justement sur les réseaux sociaux qui ont 20 ans et genre elles peuvent vivre toutes seules à Paris, enfin voilà. Et des fois je me dis aussi, même liée à la création de contenu, je travaille avec beaucoup de marques qui sont très très cool et tout, mais des fois je me dis ouais, il y a des filles qui sont invitées au défilé, il y a des filles qui vont en voyage presse et tout, et il y a grave ce truc de comparaison où tu te dis bah en fait genre bah mon travail certes il plaît à certaines personnes, mais en fait il est peut-être pas si cool que ça parce que du coup je suis pas bah j'ai pas mon appart à Paris, j'ai pas les voyages presse, j'ai pas les défilés. Et du coup, justement, bah, pour revenir au syndrome de l'imposteur, il y a vraiment ce truc de comparaison où, en fait, faut vraiment se dire que bah, finalement, même si les gens arrivent à faire ça, c'est plus un exemple pour nous de comment on peut arriver à notre fin et de se dire qu'en fait, bah oui, c'est plutôt un exemple de... Il y a des gens qui ont réussi à faire ça, donc moi, je peux le faire, au lieu de prendre ça comme de la jalousie. Et pendant longtemps, j'ai jamais eu vraiment de truc de jalousie, mais pendant longtemps, je me comparais vraiment où je me disais... mais c'est pas possible, enfin, moi j'ai 24 ans et je vais jamais réussir à faire ce que je veux, tu vois.
Mais c'est vrai que la comparaison, c'est vraiment le petit diable qui est là tout le temps, parce qu'il y a des moments justement, comme tu dis, où on va se dire bah justement il faut prendre ça dans le positif et se motiver et se dire bah moi aussi je suis capable de faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces moments où, comme on est indépendante et seule avec nous-mêmes et notre travail, on se dit bah on va pas réussir quoi. Donc je comprends totalement. Et au niveau justement des réseaux sociaux et de la création de contenu, tu es là... T'es depuis combien de temps créatrice de contenu? Et justement, le fait d'être en agence, déjà, c'est quand même une grosse avancée. Est-ce que ton agence t'aide justement à un peu dealer avec ce syndrome de l'imposteur et te dire si tu vaux ce que les marques te demandent, etc.?
Bah, du coup, je fais de la création de contenu depuis, je crois, 2020. Enfin, fin 2020, parce que j'étais hyper en retard sur TikTok. Je me suis lancée bien après le Covid, donc j'ai loupé complètement le coche. Mais en gros, je me suis lancée, on va dire, en 2020, quand l'agence est venue me chercher directement. Et en fait, on a commencé par faire des petits partenariats, puis des grands partenariats. Et en fait, elles m'aident beaucoup justement sur le syndrome de l'imposteur, parce que des fois, j'ai beaucoup de mal à définir mon prix. Donc, il y a des marques qui vont me contacter directement en privé en me demandant, voilà, on aimerait bien bosser avec toi. Et tout doit aller directement à mon agent, parce qu'en fait, je suis pas censée, dans mon contrat, je suis pas censée gérer moi-même les contrats avec les marques. Donc quand je lui envoie, des fois il me dit « Ok, il y a cette marque qui te propose un budget par exemple 300 euros, est-ce que ça te convient ?» Et souvent je lui dis « Oui ». Et il me dit « Mais enfin c'est une blague, genre ça te convient pas, genre tu ne peux pas prendre 300 euros pour juste ça ». Il me disait à chaque fois « Ouais, faut que tu apprennes qu'en fait ta valeur de travail, elle vaut plus que 300 euros pour un TikTok de 15 secondes, tu peux demander plus ». Et ça, souvent ça m'aide parce que ouais... Perso, en tant que, on va dire, fille qui est complètement broke, genre, je pense que moi, j'accepterais même 100 balles. Je dirais, ok, bah ça me va, c'est très bien, c'est déjà cool pour faire un TikTok. Mais en fait, quand tu réfléchis un minimum, tu dis, mais avec 100 euros, je vais faire quoi à la fin du mois? Je peux même pas me payer ma Navigo, tu vois. Donc voilà, je pense que ça m'aide beaucoup pour, justement, pour, on va dire, donner la vraie valeur de mon travail. Mais après... ça n'empêche pas que tu as toujours ces pensées en mode « Bah ouais, mais quand même, cette marque, elle est vraiment cool. Et si elle est venue me chercher, déjà, c'est déjà cool. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il me paye ?» Alors qu'en vrai, oui. Enfin, voilà.
Mais c'est vrai, tu as raison de réfléchir comme ça. Au final, à la fin du mois, si tu n'as que 50 euros, tu es dans la merde, quoi. Et du coup, au niveau de ton travail, fixer les prix, quand tu dis que tu as du mal et tout, je comprends, parce que je pense qu'en tant qu'indépendant, je sais qu'il y a aussi une pote à moi qui fait les ongles, etc. Et elle, c'est vrai que bah, tu peux des fois mettre en story, oui, ça coûte tant, mais c'est parce que ça, enfin, tu justifies vachement tes prix. Et justement, aux yeux des gens, peut-être quand tu justifies pas tes prix, ça va leur dire, bon, bah, justifie pas ses prix, bah, ok, ça vaut tel prix, quoi. Et du coup, est-ce que t'as déjà eu ce problème au début? Bah, par exemple, là, tes affiches, je sais pas, c'est le premier drop que t'as fait. Ouais, c'est le premier. Du coup, Est-ce qu'il y a des gens qui ont râlé sur tes prix et du coup tu t'es remis en question, ou justement les gens t'ont dit mais il faut les mettre plus cher ou des choses comme ça?
Alors là, pour le coup, pour les affiches, les gens ont été assez unanimes. J'ai reçu plein de DM de gens qui m'ont dit c'est vraiment pas cher, tu devrais vraiment les augmenter. Et en fait, comme c'était le premier drop, je les ai mis à un prix qui me semblait assez correct pour une affiche. Enfin, moi je mettrais un peu plus en temps normal, mais je me disais ça va, genre c'est pas trop cher, et en même temps ça me rémunère un minimum. Et en fait, après calcul, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça fait pratiquement rien dans ma poche. Et donc j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont dit mais meuf t'es complètement bête, genre t'aurais dû le mettre beaucoup beaucoup plus cher, dont mon copain qui a fait que de me dire mais pourquoi tu les as mis à ce prix là, enfin vraiment ça vaut pas le coup, enfin tu travailles autant pour juste gagner juste ça dans ta poche. Et du coup, après réflexion, après calcul, après justement tout ce que je te disais, les défauts d'impression, la TVA qui est plus chère que prévu, les envois, tout ça, en fait je me suis dit qu'il fallait effectivement que j'augmente les prix parce qu'à la fin du mois je touche rien du tout là-dessus. Du coup j'ai augmenté les prix et j'ai reçu 2-3 DM de personnes qui m'ont dit ouais j'ai loupé le premier drop, je comprends pas pourquoi ça a autant augmenté, donc du coup j'ai justifié mes prix. Et c'est un truc que je trouve assez horrible un peu, tu vois, de justifier ses prix, parce que ça m'arrive beaucoup avec mes tableaux. J'avais eu justement, j'avais fait un TikTok, je crois que c'était genre il y a 2 ans, où en fait, c'était un truc un peu ironique sur les gens qui me proposent de faire un tableau pour 50 euros. Et du coup, j'avais fait un TikTok comme ça, qui avait bien percé, où les gens, en fait, étaient littéralement en train de se foutre de ma gueule, en mode, ouais, ces tableaux, c'est de la merde, genre, elles demandent plus de 50 euros, moi, gratuit, je le voudrais pas. Et en fait, ça a été hyper dur, ça, de me dire... Non mais ça c'est des gens sur internet qui ont genre 15 ans et qui ne savent pas du tout le prix, le travail et tout. Et quand je justifie mes toiles, maintenant j'ai trouvé un nouveau moyen qui au final n'est pas terrible. C'est pour le prix d'une toile, c'est dire par exemple c'est 30 heures x 12, genre 12 euros de l'heure et du coup 30 x 12. Et en fait du coup ça fait tout de suite un chiffre qui est assez élevé quand par exemple je mets 40 heures, ça fait du 400, 500, enfin voilà 600 parfois pour du 50 heures. Et du coup, les gens, à chaque fois, ça les brusque direct. Mais moins qu'avant, quand je disais, ok, c'est un tableau, c'est genre entre 300 et 500 euros. Les gens, ils comprenaient pas. Ils me disaient, mais c'est hyper cher. Genre, est-ce que t'as déjà fait des expos? Enfin, tu vois, ils remettaient directement mon travail en doute. Voilà, en mode, t'as déjà fait des expos, t'es exposé dans des galeries. Genre, t'as déjà vendu des tableaux à ce prix-là. J'avais beaucoup de commentaires comme ça. Et maintenant que je justifie mon prix en disant, c'est mon heure de travail x 12, j'ai quand même des gens qui me disent, ouais, mais du coup, si tu mets moins de temps, enfin, un peu comme si je suis pas assez rapide, donc j'arnaque les gens alors que je fais mon max pour faire un tableau. Donc je pense qu'à terme, je vais essayer de trouver un juste milieu et trouver un prix qui est assez fixe, plutôt que de donner le prix à l'heure, mais en même temps, parce qu'au final, c'est de l'art, et donc l'art, tu le justifies pas au prix, c'est pas du design. Mais ouais, du coup, c'est hyper compliqué parce que je dois tout le temps justifier mes prix. Et je sais pas si tu vois, il y a une fille sur TikTok qui s'appelle Circe Design. Elle fait. En gros, elle fait du design textile, elle fait des vêtements qui sont trop trop cool. Et elle, justement, ce qu'elle fait, c'est un moyen que je trouve assez cool. Sur Insta, quand elle lance une gamme, genre elle fait un drop, elle met tout le temps genre des tickets de caisse. Donc en gros, elle fait genre des tickets de caisse sur Photoshop où elle dit, par exemple, tissu, ça m'a coûté genre, 50 balles. TVA, c'est 30 euros. Les frais d'envoi plus le temps de travail, c'est tant. Et à la fin, t'as le prix. Et du coup, il n'y a plus personne qui lui pose de questions en mode, mais pourquoi ça coûte 160 euros une robe?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu vois, et ça, je trouve ça cool, mais en même temps, je me dis, c'est chiant de toujours, toujours, toujours devoir justifier son travail. Et toi, je ne sais pas comment ça se passe de justifier ton travail. Est-ce que, Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe dans le journalisme.
Quand tu dis justement 30 heures égale x 12 et tout, c'est hyper justifiable parce que justement, même quand tu fais un job, par exemple, bah là, je bosse dans un café aussi en job alimentaire, je bosse genre 8 heures, je vais être payée du coup au SMIC à 8 heures. Et du coup, c'est vrai que quand tu fais un tableau, si ça te prend 30 heures, c'est hyper normal de justifier avec ce... Enfin, de mettre ce prix-là parce que... déjà, c'est de l'art, donc en plus, c'est ton travail personnel, etc. Ensuite, ça te prend du temps, ça te prend de la peinture, ça coûte cher, les toiles, ça coûte cher, etc. Donc, c'est bien de faire ça. Et justement, la fille sur TikTok, c'est bien qu'elle mette aussi l'étiquette caisse, comme ça, les gens ne posent pas la question, parce que c'est vrai que, inconsciemment, comme on est entouré de fast fashion, et même les affiches, tu peux les acheter des fois sur AliExpress, t'en as pour 2 euros l'affiche qui arrive floue en plus. Tu te dis, bah, pourquoi une robe va me coûter 160 euros? Bah, c'est parce que la fille, elle a passé derrière 50 heures à te faire la robe et elle a dépensé beaucoup plus que ce qu'elle va gagner, en fait. Pour le journalisme, du coup, j'ai encore un peu du mal à demander des choses. Genre, je sais que pour les salaires et tout, c'est quand t'es jeune et que tu finis tes études, tu fais, oh bah, comme vous voulez, le salaire. Alors que du coup, après, tu te retrouves avec 1000 balles par mois. Du coup, c'est chiant. Mais le journalisme, du coup, pour l'émission indépendante, en fait, au début, j'ai commencé, du coup, dans une chaîne télé qui avait déjà ses prix par région, et du coup tu pouvais pas négocier ou quoi, mais c'était des bons prix pour le travail que tu donnais. Par exemple, quand j'allais vers l'est de la France, je pouvais être payée 200 euros la journée brute, sachant que tu te lèves à 7h et que tu peux finir à 22h. Donc en vrai, même avec autant d'horaires et autant de choses que tu fais, des fois ça peut être minime, mais du coup c'était des bons tarifs. Et là maintenant, je pige pour des médias genre sur internet et tout, et du coup j'ai demandé 200 euros la journée pour certains, parce que comme ça je sais que par rapport à la charge de travail que je vais avoir, et je mets ma voix et je monte toute seule, etc., bah ça vaut complètement ces prix là mais c'est vrai qu'au début ils peuvent me proposer des trucs et je vais avoir du mal à négocier. Je pense que c'est ça aussi le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que dans ton travail, tu vas avoir du mal à te mettre en avant, à négocier, parce que tu vas avoir peur que les gens te disent bah non, c'est trop cher et tout. Mais au pire, en vrai, si vous êtes dans cette situation et que vous avez du mal à le faire, au pire, les gens vous diront bah c'est trop, et du coup, vous allez renégocier un autre prix. Ou alors, vous allez dire bah non, c'est pas trop parce que je fais ça, 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 il n'y a pas de monteur avec moi, il n'y a pas ça avec moi, je dois acheter tout le matériel, etc. Donc en vrai, c'est important de connaître la valeur de son travail, même si c'est dur. Quand on est jeune et quand on commence, surtout quand on est indépendant, de se dire bah je vaux ça. Genre savoir ce qu'on vaut, c'est toujours dur, même du côté personnel, quand on n'a pas confiance en nous et tout, c'est dur de dire je vaux autant que cette personne-là. Est-ce que par contre le syndrome de l'imposteur pour toi, ça peut avoir un petit impact positif, dans le sens où ça va des fois t'apporter de la motivation ou pas du tout?
Pour moi, c'est un peu à double tranchant. Des fois, ça va justement te laisser genre cloué au lit, où tu te dis bah en fait j'ai pas envie voilà de faire quoi que ce soit, et des fois au contraire tu te dis bah en fait je me sens pas méritante, donc du coup j'ai envie de me surpasser moi-même, et du coup tu te lances un propre défi en sachant qu'au final t'es déjà méritante, mais du coup tu te resurpasses. Et je pense que ça peut avoir un impact qui est positif. J'ai fait un stage en Erasmus, donc c'était en 2022, donc l'année... c'était il y a 2 ans, quoi. Et du coup, je suis partie en Erasmus à Vienne, donc en Autriche, et je travaillais pour une artiste-designer qui est donc chercheuse, et elle travaille notamment avec la NASA, et elle fait vraiment... En fait, elle fait du design textile, et elle fait vraiment des projets qui sont juste hyper intéressants. Et j'avais beaucoup ce syndrome de l'imposteur en arrivant, parce que je suis arrivée, elle travaille donc dans l'université d'art appliqué de Vienne, où elle avait vraiment son studio de recherche. Et je suis arrivée, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, je sais pas pourquoi elle m'a prise. Je fais pas de design textile, donc je comprends pas vraiment l'intérêt. Et elle a vu un potentiel dans tous mes projets personnels. Et en fait, elle trouvait vraiment cool l'idée de mélanger des matériaux, parce que je faisais beaucoup ça, en fait, des matériaux, de la recherche entre matériaux innovants et très traditionnels. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle fait. Et du coup, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur en arrivant. Les premières semaines, pareil, je me suis dit, mais je sais vraiment pas ce que je fous là. Enfin, elle me posait plein de questions, et beaucoup de questions liées au code. Elle me demandait si je savais coder, et je lui disais, bah franchement, j'ai les bases, mais je suis vraiment nulle. Et en fait, un jour, elle m'a dit « Ok, bah moi, j'ai besoin de toi pour le projet. En fait, tu vas coder, mais tu vas hacker complètement une brodeuse numérique, et on va pouvoir faire des nouveaux patterns de broderie, on va dire anciens, mais du coup, complètement hackés numériquement, donc ça devient un truc nouveau. » Et en fait, le projet, il m'intéressait trop, et j'étais tellement dans ce syndrome de l'imposteur en me disant « Mais je ne sais pas coder, Mon copain, il est développeur, donc du coup, j'avais envie de l'appeler tout le temps pour lui dire « Est-ce que tu peux m'aider pour le code ?» et tout. Et en fait, elle m'a dit « Ok, bah, si tu veux, genre, c'est pas pressé, j'ai un an pour faire ce projet, mais du coup, ce qui peut être cool, c'est que tu te prennes une semaine où tu fais que du code. » Et de base, genre, moi, j'en avais déjà fait en cours, c'est un truc que je déteste. Et en fait, ce syndrome d'imposteur, il m'a limite poussée à apprendre à coder. Et quand je me suis posée bah, devant l'ordi, je me suis dit, en fait, c'est chiant au début, on va pas se mentir.
C'est trop chiant, quoi.
C'est horrible.
Je déteste.
Franchement, c'est horrible. Mais en fait, grâce au fait que je me disais que je n'ai rien à faire là, je me suis mise devant l'ordi pendant une semaine. J'ai appris à coder. Bon, je sais pas coder encore, mais je sais faire justement hacker cette brodeuse numérique. Et à la fin, en fait, ça fait un projet trop cool. Et je me suis dit, si j'avais pas surpassé mon truc de... qu'est-ce que je fous là et pourquoi elle me demande de faire du code alors que je suis trop nulle. J'aurais jamais fait ce projet et du coup, voilà, je pense que ça m'a bien motivée dans certains cas et beaucoup justement quand j'étais en Erasmus.
Je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions, mais j'ai une dernière question, c'est est-ce que tu as quand même des petits conseils que tu peux donner à quelqu'un qui nous écoute et qui veut surmonter ce syndrome de l'imposteur ?
Du coup, tout à l'heure, je parlais du fait de se sortir de son propre corps et de se dire si j'étais quelqu'un d'autre, j'adorerais ce travail, donc du coup, potentiellement, mon travail est cool. Mais sinon, il y avait d'autres tips que j'avais relevé quand j'ai fait ma vidéo. Il y avait le fait de... déjà, quand on te propose un projet, de jamais se mettre de barrière en se disant « Pourquoi on est venu me chercher ? Parce que je suis pas assez bon ou pas assez bonne. » Et en fait, au contraire, de se dire « Si je pense pas réussir à relever ce défi, justement, c'est un truc à faire, c'est quelque chose à essayer de surmonter. » Et c'est aussi une manière d'apprendre à faire de nouvelles choses. Après, il y avait... toujours le truc d'en parler aux autres et de se... parce qu'en fait, comme on n'est pas seul, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider à surmonter ça. Là, comme je te disais, c'est beaucoup des conseils que je trouve qui sont applicables surtout dans le monde créatif. Mais après, c'est vrai que ça peut quand même se relier avec plein d'autres domaines. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil Et aussi, je le disais aussi dans ma vidéo, c'est de faire une liste des choses qu'on a déjà accomplies. Ça, c'est un truc qui a vraiment beaucoup, beaucoup marché pour moi. C'est de faire un retour en arrière et de se dire, actuellement, je me sens nulle, je me sens pas assez bonne, je me sens pas méritante. Mais en fait, il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai fait des trucs qui sont géniaux et que, ils méritent d'avoir leur petit moment de gloire. Et aussi vraiment, se dire que tout ce que je réussis à faire, c'est une victoire et de... vraiment de l'acter, de pas le minimiser, de se dire ça j'ai réussi à le faire, donc c'est que je suis méritante, je pourrais le faire plus tard parce que j'ai déjà réussi à faire tel projet, et du coup vraiment ne pas se mettre de limites et se hyper un peu soi-même.
Merci pour tes conseils. Et par rapport aux proches qui te motivent et tout, je vous conseille toujours ça, mais entourez-vous de gens qui sont à fond derrière vous. Pas de gens où quand vous avez un projet, vont dire « Oh, mais ça va jamais percer, je vais pas partager ton projet, d'où ça va percer ?» Genre, entourez-vous de gens justement qui vous placent encore plus sur un piédestal et qui vous disent « Ah, mais c'est sûr, un jour tu seras exposée dans une galerie. Ah, mais c'est sûr, un jour tu vas devenir présentatrice télé. » Genre des choses comme ça, ça fait toujours du bien. Et comme ça, quand vous avez un jour où vous arrivez pas à vous hyper vous-même, et vous avez votre entourage qui est là pour vous hyper plus que ce que vous attendez, donc vraiment voilà, c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup Emilia d'être venue sur ce podcast. N'hésitez pas à aller voir son travail donc sur Insta et TikTok et YouTube, Emilia Pesty, P-E-S-T-Y. De toute manière, son nom est écrit sur l'épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager comme d'habitude sur les réseaux sociaux, à noter le podcast, ça m'aide beaucoup d'avoir des petites étoiles sur notamment Spotify ou Apple Podcast. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, 9h, pour un nouvel épisode. Bye.